Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, c'est parti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très fort lorsqu'un père et une fille se sont retrouvés à l'adolescence. Concrètement, le jour où une fille s'est rendu compte que celui qu'elle pensait être son père n'était pas son père, le jour où elle a rencontré son père biologique. Vous allez entendre ce témoignage à deux voix, donc avec Tatiana et Philippe, qui sont venus les mains dans la main pour un témoignage très touchant. Puis nous serons avec une psychiatre et pédopsychiatre, Dr Anne Sénéquier, qui nous répondra sur les questions de la quête d'identité. C'est passionnant, je vous le dis tout de suite.
Adoption, PMA avec donneur, révélation d'un secret de famille. Les raisons sont nombreuses pour se lancer à la recherche d'un parent biologique. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez découvert à l'âge de 10 ans que l'homme qui vous élevait n'était pas votre père biologique. Quand vous avez été adulte, vous avez eu envie de rencontrer votre vrai père, entre guillemets. Et ce père biologique, c'est vous, Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
De votre côté, vous attendiez depuis des années que votre fille vienne frapper à votre porte. Donc l'histoire, c'est une très très belle histoire de retrouvailles, de secrets de famille aussi que vous allez nous raconter maintenant. Tatiana, déjà, comment est-ce que vous avez découvert que le père qui vous élevait n'était pas votre père biologique ?
Eh bien, tout d'abord, en fait, j'ai grandi dans ma famille avec ma maman qui portait son nom de jeune fille, mon père adoptif. Donc mon papa, que j'appelle mon papa, qui avait son nom de famille à lui, et mon nom à moi, qui m'avait été donné par Philippe. Mmh. Et je pensais que dans toutes les familles, c'était comme ça. Et c'est à l'arrivée de ma sœur, quand j'ai eu 9 ans et demi, que j'ai compris, j'ai compris qu'il y avait un souci. Elle portait le même nom que mes parents. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions.
Et vous en avez posé à qui vous les avez posées à qui ces questions ?
À ma maman directement, qui était un petit peu fermée sur le sujet et qui ne souhaitait, enfin, qui esquivait gentiment le sujet. Et du coup, j'ai.
Vous avez senti que là, vous touchiez à quelque chose d'un petit peu délicat dans la famille.
J'ai compris qu'il y avait un réel souci et c'est vrai que j'en ai profité pour en parler devant toute ma famille un soir, un repas de famille. Et du coup, j'ai ma tante qui m'a dit gentiment, tu en parleras demain avec ta maman au calme et elle te répondra.
Est-ce que vous avez essayé de faire ?
J'en ai parlé le lendemain, effectivement. Et j'ai senti que le sujet était vraiment, vraiment tabou.
Vous avez eu une enfance très heureuse, il faut le dire quand même, malgré ça. Hein.
Tout à fait. J'ai eu une enfance plus qu'heureuse. J'ai rien à redire là-dessus, mais c'est vrai que cette partie n'a pas été facile à aborder avec mes parents.
Alors, ce que vous avez appris plus tard, c'est que vous étiez née d'un déni de grossesse. En fait, votre maman était très jeune et n'avait pas réalisé qu'elle était enceinte. C'est bien ça ?
C'est ça. Elle a appris qu'elle était enceinte le jour où elle a accouché.
Bon. Philippe, vous aviez donc 18 ans quand Tatiana est née. Vu que c'était un déni, j'imagine que ça a été un choc pour tout le monde. Mmh. Est-ce que vous sentiez malgré tout père, malgré votre jeune âge, en tout cas apte à l'être ?
Non, je n'étais pas prêt à être père. Parce que bon, j'ai découvert la naissance de Tatiana au téléphone quand j'étais sous les drapeaux dans mon service militaire. Et donc, j'ai voulu faire face, et avec l'intention bien sûr de m'occuper de Tatiana et d'essayer de fonder un foyer pour s'occuper de Tatiana ensemble. C'est pour ça que j'ai reconnu Tatiana dès que je suis rentré en permission de l'armée. Et ensuite, j'ai appris assez rapidement que ma compagne de l'époque, donc la maman de Tatiana, était avec une autre personne. J'ai fait les démarches judiciaires pour pouvoir obtenir au moins la garde partagée de Tatiana. Et donc, c'est à partir de là en fait, que la situation s'est dégradée, elle est devenue très conflictuelle. Et donc, à partir de là, on a eu beaucoup de difficultés en fait à faire valoir mes droits que j'avais eu auprès du tribunal. Et ensuite, je suis parti en formation sur Marseille, donc faire valoir mes droits de garde. Il fallait que je les adapte en fonction de mon emploi.
Ce que je veux dire, c'est que vous étiez dans le Nord avec votre maman, donc Marseille, vous partiez à 1000 km.
Voilà.
C'est un peu plus compliqué. Voilà.
Et donc, j'ai essayé d'aménager un peu ces temps de visite, de garde, et ce qui était très difficile à faire. Donc la distance s'est créée, et puis c'est resté toujours très, très, très conflictuel, avec des conditions qui ont fait que Tatiana était un peu entre nous deux, placé dans le conflit des parents, et c'est elle qui en payait les frais. C'était douloureux pour tout le monde, et donc j'ai fait le choix de me mettre en retrait.
Oui, vous vous êtes dit, finalement, elle sera peut-être plus heureuse, vu qu'à chaque fois que je viens, c'est des cris et des conflits, et qu'elle pleurait. Vous vous êtes dit, finalement, c'était un acte d'amour, ce que vous avez fait là.
Alors, en fait, j'ai pris cette décision avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Je sais que ça a été douloureux pour tout le monde. C'était douloureux pour mes parents également, qui étaient très présents à ce moment-là. Et douloureux pour moi aussi, mais fallait que je tranche en fonction du bénéfice pour chacun. Et donc, j'ai fait au mieux avec les moyens que j'avais à ce moment-là.
Ça pouvait plus durer. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu toutes ces années loin de votre fille, sans nouvelles, sans savoir si elle était heureuse?
Alors, j'ai essayé de prendre quelques nouvelles. Je suis revenu à plusieurs reprises voir sa maman pour essayer de renouer des liens. Les conditions du conflit étaient toujours présentes, donc ça restait très compliqué. Je voyais que j'avais pas... En tout cas, on n'avait pas aménagé une place. Pour moi, je n'étais pas attendu là auprès de Tatiana, donc c'était toujours très compliqué. Pour moi, ça a toujours été une blessure. Donc, j'étais dans l'attente de retrouver Tatiana. Et donc, j'ai aménagé ces conditions pour qu'elle puisse me retrouver le plus facilement possible. Donc, je me suis mis sur les réseaux sociaux quand ils sont apparus. Et finalement, j'ai attendu. Je n'ai pas fait le choix d'aller la retrouver, elle, et de lui expliquer que j'étais son père naturel, parce que je ne me voyais pas venir dans la vie d'une enfant, tout perturbé, tout chamboulé.
Bousculer son équilibre.
Voilà.
Tatiana, donc, c'est quand vous avez eu 18 ans que vous avez commencé à vouloir chercher votre père biologique. Qu'est-ce que vous attendiez, finalement, de ces retrouvailles? Est-ce que vous vouliez... nouer un contact, ou est-ce que c'était par curiosité, à la base?
À la base, c'était vraiment par curiosité, je l'avoue. Je ne savais pas du tout si j'avais ce besoin de créer une relation avec mon père biologique, étant donné que j'ai déjà un papa. Du coup, on s'est donné rendez-vous comme ça, pour moi en tout cas. Et...
Je l'ai retrouvé très très vite.
Oui, je l'ai retrouvé très vite grâce aux réseaux sociaux. Ça s'est fait très facilement. Et Philippe m'a rejoint dans le Nord. On a organisé une rencontre.
Alors justement, vous rencontrez donc un mois plus tard. Racontez-moi votre rencontre. Ce beau moment. Non, alors Tatiana, commencez. On va faire l'un après l'autre. Je veux tout savoir, hein, le cœur qui bat la chamade, le moment où vous arrivez. Est-ce que c'est lui? Est-ce que vous l'avez reconnu? Je veux tout savoir.
Eh bien, j'arrive en voiture. Philippe était déjà là. On s'était donné rendez-vous dans un restaurant à Tourcoing, d'où est natif Philippe. Et donc, je sors de ma voiture, je le vois sur le trottoir d'en face et effectivement, je sais que c'est lui. Il m'attend avec un grand sourire.
Il y a eu une forme de reconnaissance.
Ouais.
Philippe, comment vous avez vécu cette rencontre? Parce qu'alors vous, c'est des années de frustration. Je vous sens très, très ému.
Désolé.
Ah bah, vous excusez pas. Est-ce que vous voulez un petit... Regardez, tout est prévu. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas le premier.
Merci.
Mais c'était un moment... Forcément, on se met à votre place. 18 ans. 18 ans à attendre ce moment.
Moi, quand je la vois, c'est pareil. Hein. Je vois les traits de ma famille, en fait, à travers Tatiana. Je vois ma sœur qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Je vois ma nièce aussi. Et comme aujourd'hui, en fait, je suis mal à l'aise de pleurer parce que quand je la vois, je pleure. Et je craque. Et voilà.
Bah oui, parce que c'est la famille, quoi. C'est votre fille.
Oui.
Alors, après cette première rencontre, vous avez organisé une rencontre avec votre famille. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez fait d'autres enfants.
Oui.
Pendant tout ce temps. Je crois qu'il y en avait... Vous avez trois enfants, mais il n'y en avait que deux qui étaient déjà là quand vous avez présenté Tatiana à tout le monde.
Donc, il y avait Cassandre et puis Romane qui étaient présents, qui étaient là. Et puis, il y a Camille qui est arrivée après, oui.
Comment ça s'est passé, cette rencontre? Ça a dû être un bouleversement pour vous et pour votre famille.
Oui, alors, mon épouse, ma compagne aujourd'hui, elle a toujours été au courant de cette situation. Et donc, elle a toujours été là présente pour me soutenir, parce que ça a toujours été compliqué, en fait. Hein, et c'était compliqué aussi pour avoir des enfants.
C'était compliqué pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que vous aviez l'impression de trahir Tatiana? Ou qu'est-ce qui...
Non, parce que pour moi, c'était un échec. Voilà, je ne voulais pas revivre ce risque de rupture, de perdre de nouveau des enfants. Donc, c'était... Se projeter dans quelque chose d'aussi douloureux, c'était compliqué.
Je comprends.
Voilà, donc... Donc on en a beaucoup parlé avec ma compagne. Et puis, bon, après, les enfants étant là, il y a eu cette rencontre avec Tatiana qui s'est bien passée. Hein, mais ça a été une surprise quand même pour mes enfants, surtout pour ma grande, Cassandre, qui ne s'attendait pas, qui n'était pas au courant, qui ne savait pas. Donc, elle avait 9 ans. Et donc, on a pensé que c'était le bon moment, parce que bon, Tatiana avait fait des démarches pour se revoir. Et donc, pour ma grande fille, c'était un peu compliqué de se rendre compte que finalement, elle n'était pas la première, qu'elle était la deuxième d'une fratrie. Et donc, voilà. Mais autrement, ça s'est très bien passé.
C'est-à-dire que quand elle a vu Tatiana, je pense que tout a été effacé. Elle a bien senti que vous n'étiez pas une menace et les liens ont pu se créer. Et vous, Tatiana, est-ce que vous avez pu en parler à votre maman du fait que... Parce que comme vous avez toujours senti que c'était très délicat et que vous étiez un peu face à un mur quand vous parliez de ça...
C'est un peu toujours le cas. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à lui dire que je vois Philippe quand je le vois. C'est à mes 18 ans, ça a été très compliqué. Effectivement, je n'en ai pas parlé parce que je ne me sentais pas la force de lui dire. Elle l'a découvert par l'intermédiaire de mon parrain à qui je me suis sentie de me confier. Et ça a été très mal accueilli, effectivement.
Vous comprenez pourquoi ?
Oui, je peux comprendre pourquoi. Mmh. C'est vrai que ça doit être difficile pour elle encore aujourd'hui. J'ai essayé tant bien que mal d'expliquer que ça ne changeait rien pour notre relation, que ce soit entre elle et moi ou entre elle et mon papa. Philippe reste mon père biologique. J'avais ce besoin de le rencontrer. J'ai besoin d'avoir cette relation que j'ai à l'heure actuelle avec lui. Mais ça ne change rien envers ma relation, enfin pour ma relation envers mes parents.
Et pour justement préserver un peu votre maman, pendant quelques mois, voire années, vous avez arrêté de voir Philippe ?
Je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais effectivement, je sentais bien que tant que je vivais chez mes parents, c'était très compliqué de me dégager du temps quand Philippe venait dans le Nord. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu contact à cause de ça.
Pour mieux vous retrouver.
C'est ça.
C'est pour ça que vous voulez témoigner aujourd'hui, Tatiana ? C'est un peu pour revendiquer et asseoir ce lien que vous avez créé.
Ouais, un petit peu pour ça aussi. Pour, je pense que notre histoire est belle et elle se termine bien. Donc aussi pour les enfants qui sont peut-être en recherche de leurs parents naturels et aussi pour mes enfants. Parce que j'espère qu'ils pourront parler à leurs grands-parents de Philippe comme leur grand-père, en fait, et qu'ils sentent qu'il n'y a pas de malaise. J'ai envie qu'ils puissent parler de Philippe à ma maman et à mon papa.
Quelle place a Philippe aujourd'hui dans votre vie ?
La place d'un grand-père pour mes enfants. Et la place de mon père biologique, effectivement, je ne pourrais jamais l'appeler papa parce que je l'ai rencontré à 18 ans et j'avais déjà un papa, comme je vous l'ai dit. Mais j'aimerais qu'il occupe une place au quotidien dans ma vie et qu'il soit là pour mes enfants et qu'il soit là pour moi aussi et qu'on puisse rattraper éventuellement le temps perdu.
Et Tatiana, Philippe, même question. Quelle place elle a aujourd'hui dans votre famille et dans votre cœur ?
Dans mon cœur, ça a toujours été ma fille. Et voilà, toujours la fille attendue. Donc maintenant qu'elle est là, elle a sa place dans la fratrie, dans la famille. Voilà, après, moi, je suis très au clair sur ma position aussi. Je ne veux pas me substituer à qui que ce soit. Elle s'est construite auprès d'autres personnes. Je ne veux pas rattraper le temps, par contre, parce que ce n'est pas possible, à mon sens. Je vais prendre une place qu'elle veut bien m'octroyer aujourd'hui. Donc, je suis très heureux de la place qu'elle veut bien me donner. La place que je peux avoir aussi auprès de mes petits-enfants.
Bonjour, docteur Anne Sénéquier. Quel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre. Est-ce qu'on a toujours besoin de connaître ses parents biologiques pour se construire ? Parce que c'est vrai qu'avec la PMA, on a de plus en plus d'enfants qui se rendent compte qu'ils sont issus de dons d'ovocytes, de dons de sperme et tout ça. Est-ce que c'est obligatoire de rencontrer ses parents biologiques ou en tout cas de savoir qui c'est ?
Non, c'est pas obligatoire et c'est propre à chaque enfant. Finalement, on pourrait avoir toutes les réponses en fonction des enfants. Il y a un vécu, il y a un ressenti du vécu, donc finalement, c'est propre à chacun. Maintenant, c'est vrai que Au fur et à mesure, la filiation, c'est aussi donner assez d'étayage à un enfant pour qu'il puisse aller grandir un petit peu plus loin. Et ces étayages, ils sont autre chose, c'est autre chose que seulement des gènes. Donc, il y a la famille, il y a la famille nucléaire, papa, maman, ceux qui sont là tous les jours. Et au-delà de ça, il y a toutes ces branches qui grandissent autour de la famille. Ça peut être des amis aussi. Mais c'est vrai que souvent, ça arrive, cette question-là, de se dire d'où je viens. Finalement, cette petite chose que j'ai moi seule dans cette famille, est-ce qu'elle vient d'autre part? Donc oui, ces questions sont légitimes, il ne faut pas les accueillir avec inquiétude. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent souvent, l'inquiétude du secret. Est-ce que, il faut que j'en parle, quand l'adoption n'est pas visible par l'enfant, finalement, on a cette tendance de vouloir garder le secret, ce qui se passe parfois dans les dons de PMA. Et après, lorsqu'on a des adoptions d'autres continents, où de fait, on ne peut pas maintenir le secret, on est inquiet de ça. Et je pense qu'il faut libérer cette parole-là. L'adoption, c'est un acte d'amour. Et la problématique, c'est la sémantique. On parle d'abandon d'enfant. Et ça, c'est très violent.
Oui, c'est vrai.
Et c'est quelque chose que l'on retrouve chez les jeunes qui sont très à l'aise avec leur adoption, en tous les cas, qui le verbalisent comme ça, et qui ont quand même cette peur de l'abandon avec leurs parents adoptifs et qui cherchent à tout prix d'être l'enfant parfait. Donc, ça prend différentes formes en fonction de l'histoire familiale et personnelle de chacun. Mais c'est vrai que dans cette sémantique-là, et je pense que sociétalement parlant, on a besoin de reconstruire un nouveau narratif autour de la question de l'adoption.
On a reçu une question de Marie qui vous dit « Je souhaitais rencontrer mon père biologique au moment d'avoir mes enfants. Avant, je n'en avais jamais ressenti le besoin. Que vient réveiller la maternité pour réactiver ce besoin de se relier à ses origines ?» C'est vrai que la maternité, ça bouleverse. Et dans ce cas-là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
La maternité, c'est un reset. On rembobine et on recommence sa propre histoire. Et on va relire tout plein de choses. On va comprendre certaines choses, d'autres on va plus du tout comprendre. Et c'est vrai que tout ce qu'on croyait comme certain et acquis, finalement, repasse à travers un nouveau filtre, qui est le filtre de la maternité, où on s'était jusqu'à présent, peu ou prou en tous les cas, mis en priorité. Et là, aujourd'hui, cet enfant, cette maternité, que ce soit une maternité ou une paternité d'ailleurs, vient remettre les cartes. Et du coup, oui, on a envie de savoir. Ces petites zones d'ombre qui n'étaient pas gênantes auparavant, peut-être peuvent prendre plus de place. Et du coup, cette envie de transmettre vers son enfant va questionner ce que l'on ne sait pas chez nos ascendants.
Et à l'inverse, des zones d'ombre avant de devenir parent peuvent devenir futiles juste après. Ça peut s'équilibrer.
Exactement.
Solène vous demande quelles conséquences sur l'enfant lorsqu'elle est retrouvée avec ses parents biologiques ne se passe pas comme il l'aurait souhaité.
Alors, je pense que tout le monde espère que ça soit magique et merveilleux. C'est malheureusement pas toujours le cas. Mais malgré cela, il y a des réponses. Finalement, on n'est plus dans le flou, on n'est plus dans le fantasme. On sait à quoi on a affaire, on sait à qui on a affaire. Et même finalement, une fin de non-recevoir est une sorte de réponse. Comme ça, ça permet de se rendre compte que sur cette personne-là, en fait, il n'y a pas cette réciprocité. Donc, on va peut-être aller chercher à côté, puisque une famille, une filiation, ce n'est pas juste un père biologique ou une mère biologique, c'est toute une famille, tout un univers. Et il y a cette possibilité peut-être de retrouver des cousins, de retrouver des demi-frères ou des demi-sœurs. Donc, je pense que c'est aussi à mettre en rapport en fonction de ce que l'on cherche soi là-dedans. Et cette filiation, on peut la retrouver par autre chose que la filiation directe, oui, si jamais on est déçu.
Valérie a découvert que son père n'était pas son parent biologique à l'âge de 22 ans. Elle l'a très mal vécu. Qu'auraient dû faire ou dire les parents qui l'ont élevé?
Bonne question. En fait, le secret, à ce moment-là, est compliqué parce que on va fantasmer tout plein de raisons qui complexifient les choses. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de comprendre un peu le point de vue des parents, qu'est-ce qu'ils redoutaient à cette époque, pourquoi finalement ça n'a pas été dit, et essayer d'en discuter de manière plus ouverte et constructive avec ses propres parents, et de ne pas finalement continuer à tricoter ce secret et d'en faire un ressentiment négatif. Bon, aujourd'hui, ce secret, il est là, il est clos enfin, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et on va essayer justement de mettre à plat tout ça pour repartir sur de bonnes bases. Mmh. Et essayer de faire finalement une addition, parce que trouver une autre branche dans son arbre, généralement, ça peut aussi être positif.
Alors Robin vous dit, à 20 ans, j'ai eu un petit garçon, mais je ne me sentais pas prêt pour la paternité. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, puis-je tenter de le rencontrer ou cette démarche doit-elle venir de lui ?
Je pense que là aussi, tout est compliqué finalement aujourd'hui. Merci pour le sujet, quoi.
Globalement, votre métier n'est pas simple.
Globalement, il n'est pas simple, c'est vrai. La problématique, c'est que on ne sait pas ce qu'est devenu ce petit garçon. On ne sait pas dans quel monde il évolue, quel est son narratif, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'on lui a vendu comme histoire. Et je pense que c'est important dans un premier temps de savoir un petit peu ça, le contexte, avant d'arriver comme ça à la sortie de l'école et
dire, pas le déstabiliser, quoi.
Voilà. Donc ce qu'a fait Philippe, le papa retrouvé, d'utiliser les réseaux, de poser une vitrine, de dire je suis là quand tu as besoin, parce
d'être
qu'aujourd'hui,
visible, en fait, voilà, qu'on puisse le retrouver.
On peut également, ce qui serait pertinent de faire, je pense, c'est d'envoyer un courrier à la maman, peu importe les antécédents qu'on a, de dire, j'aimerais reprendre contact, je ne suis pas intrusif, mais je suis disponible s'il y a besoin d'envoyer une carte pour Noël, pour l'anniversaire, ou juste quand il a envie. Après, si la mère ne passe pas ceci à l'enfant, j'ai envie de dire, c'est pas grave, à un moment donné, l'enfant saura que son père a été présent, même s'il n'a pas eu accès jusqu'à lui. Et puis le jour où il a 18 ans, effectivement, peut-être être un peu plus proactif et essayer. Effectivement, je trouve que les réseaux sociaux sont plutôt une bonne approche parce que ça permet le temps de la réflexion plutôt que de la confrontation directe comme ça sur le bord du trottoir.
Ça va faire écho à la première question de tout à l'heure. Victoria qui vous demande comment expliquer à ma fille de 4 ans que son père biologique n'est pas son père biologique. J'ai l'impression que dans notre émission, dès qu'on dit comment expliquer à mon enfant 2, on répond toujours par des mots simples.
Oui, tout simplement. En fait, ce que l'on considère comme étant un secret peut devenir la normalité de l'enfant, en fait. Et c'est, on regardait les petits livres tout à l'heure et on raconte tous des histoires à nos enfants, on prend tous le support des petits livres. Et bon, bien souvent, on a un papa et une maman, soyons honnêtes. Et je pense que c'est important dans ces cas-là et même dans tous les autres pour faire apprendre un petit peu la diversité des familles, parce qu'aujourd'hui, le modèle papa-maman et deux enfants, et comme ça sur des générations, il existe encore, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et le fait de se rendre compte qu'il y a cette diversité permet de s'inscrire justement dans ce melting pot de différences et de ne pas se sentir, il y a tout le monde et il y a moi à côté. Mmh. Et là, ça, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, dans une classe de petite section, moi, mon fils, il a toutes les différences. Il y en a qui sont adoptés, d'autres qui sont métisses, d'autres qui sont divorcés.
Famille homoparentale aussi.
Famille homoparentale.
Tout ce qu'on voyait beaucoup moins quand nous on était.
C'est leur normalité en fait. En fait, c'est déstabilisant pour les parents. On se demande comment on va faire ça. Mais en fait, tout simplement, et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'attendre 4 ans, on regarde le petit livre, on dit oh, regarde, lui, il a un papa et une maman, lui, ils ont deux papas, eux, ils sont divorcés, et ainsi de suite. Et du coup, bon, c'est un fait, c'est un détail de chacun
histoire.
Et
son
de son histoire.
Et voilà. 4 ans, c'est le bon âge, parce qu'ils comprennent.
4 ans.
Utiliser le mot simple.
Même avant, hein, je pense, avant. Vers 2 ans et demi, 3 ans, on peut très simplement faire un petit dessin, tout simple. Hein, un monsieur, une dame fait un enfant. Et quand il n'y a pas de monsieur, on peut aller à la maison des graines chercher une graine de papa. Et du coup, ça fait une graine de monsieur d'ailleurs, parce que ce n'est pas un papa, c'est un donneur.
Une graine de monsieur, oui.
Une graine de monsieur pour du coup avoir un enfant si papa n'a justement pas les graines qu'il faut. Donc en fait, on a toutes ces combinaisons-là qui sont possibles et très simples à comprendre pour un enfant et qui, du coup, là encore, l'inscrit dans la diversité des possibles. Et du coup, il en fait sa normalité et tout simplement, et plus vous en parlez jeune, finalement, il va en parler de temps en temps à l'école. Et finalement, ça sera aussi normal pour ses copains et ça ne sera pas questionné par la suite.
Vous savez quoi ? Expliquer comme ça, je pense que même à des adultes, on pourrait leur expliquer la graine et tout. Et ça passe très simplement.
Oui,
c'est un métier, hein, carrément.
Je vois. Moi, j'ai compris.
Je suis ravie. Alors, on a une question difficile qui vient d'arriver. Mon père biologique, avec qui je n'ai plus de contact depuis mes 8 ans, est en stade terminal d'un cancer. Devrais-je le rencontrer ou échanger avec lui une dernière fois ?
Bon courage, docteur.
Je pense qu'il n'y a pas de théorie, il faut le faire à l'envie en fait. Est-ce que j'ai envie ? Et aussi se projeter parce que...
Parfois on n'a pas envie mais on a peur de regretter de ne pas l'avoir fait.
Voilà, elle est toute jeune donc il faut se projeter aussi le moment où elle sera mère ou le moment où plus tard elle sera dit tiens j'aurais aimé poser quelques questions.
On ne sait pas quel âge elle a, enfin il ou elle a, elle dit j'ai plus de contact depuis mes 8 ans.
Voilà, je pense que si à un moment donné on veut avoir des réponses, peut-être pas forcément une relation, parce que là, on voit que la situation est difficile. Oui. Il faut quand même y aller. Après, si ce n'est pas vis-à-vis directement, là aussi, on peut écrire un courrier, parce que c'est toujours parfois plus simple de poser sur papier ce qu'on a, ce qu'on ressent et ce qui nous inquiète aussi, ou ce qu'on a envie de dire tout simplement. C'est juste, on a perdu contact parce que ceci, parce que cela, j'y ai pensé quelques fois, ou au contraire, ça a été compliqué pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir apporter ces réponses-là et ces informations-là aussi. Donc, oui, je pense que la réponse va être toute simple sur le « est-ce que j'ai envie ? Oui, j'y vais. Est-ce que j'ai pas envie ? Non, j'y vais pas. »
Est-ce que, par exemple, si cette personne est en colère, pour elle, il faut qu'elle y aille et qu'elle lâche ?
C'est compliqué, parce que s'il est en phase terminale d'un cancer, on va pas non plus...
C'est... Effectivement, c'est compliqué. Ça prend en considération sa nécessité de vider son sac et en même temps l'impact que ça peut avoir en face. Est-ce que cet homme en phase terminale est la même personne contre qui on était en colère au départ ? Probablement pas. Mmh. Et par contre, ça peut être l'occasion de reprendre contact et de laisser sa colère de côté. Et ensuite, peut-être de travailler ses ressentis avec la famille, justement, de ce père biologique. Donc, ça n'a pas pour vocation d'être le déversoir de la colère, mais plutôt d'essayer de trouver des réponses et finalement d'où vient cette colère et essayer là aussi de dénouer les fils.
Alors Étienne vous pose une question que j'adore. Y a-t-il certains secrets de famille qu'il vaut mieux taire ou faut-il dire toute la vérité, rien que la vérité ?
Pas que la vérité. Je pense qu'il faut voir un petit peu à qui on protège, de quoi on se protège et quel est l'intérêt finalement de la vérité. Et là-dessus, c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de réponse simple dans toutes vos questions, Benjamin, je vous le dis de suite, c'est que les secrets ont un petit effet pervers boomerang qui leur revient assez rapidement, que ce soit dans 2 mois ou dans 20 ans, voire dans 50. Donc c'est vrai qu'il faut être très précautionneux dans ces histoires et se dire que très probablement aujourd'hui, on est en 2022, même si on est tout petit, on peut se dire que ce que l'on veut protéger probablement sera dévoilé au fur et à mesure de la vie des enfants, parce que parfois il y a des raisons médicales et on va faire des recherches génétiques et ainsi de suite et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais on parle de la médecine par les IA, les intelligences artificielles, la médecine préventive, prédictive, où on va justement analyser à travers le génome quels sont les facteurs de risque de la santé, exactement. Ça va être très simple pour les enfants de faire le match ou pas avec sa propre lignée et de se dire, mais tiens, ou même les tests, c'est très à la mode depuis 2 ans, de faire un test salivaire et de savoir de quel continent on vient, et ainsi de suite. Et se dire, mais d'où ça vient, ce côté...
C'est interdit en France encore.
Hein. Ouais, mais vous savez qu'Internet...
Ça va vite.
Mais justement, à propos de secrets, est-ce qu'il faut attendre la question de l'enfant pour aller vers cette vérité ou il faut se dire il n'y a pas de secret, on doit lui dire parce que ça participe à sa conscience.
Le secret, au départ, il est conceptualisé comme étant je vais protéger la personne à qui je cache quelque chose. Et donc ça, il faut le remettre aussi en parallèle avec la société d'aujourd'hui. Ce qui était un secret hier ne l'est plus vraiment aujourd'hui et certaines choses ont évolué. Et de ce fait, en fait, on peut aujourd'hui s'autoriser tout le côté PMA... aucun intérêt à être un secret, c'est vraiment se tarabiscoter l'esprit pour le plaisir.
C'est marrant de voir que les secrets de famille évoluent, les grandes tendances des secrets de famille. Il y a 40 ans, c'était papy qui a fait robe trouble pendant la guerre, ensuite c'était PMA, et aujourd'hui c'est...
Mais parce qu'il y avait effectivement la protection, la honte vis-à-vis de soi-même, mais aussi l'ostracisation. Si vous étiez un enfant d'un soldat allemand, c'était pas très bien vu, et il y avait de grandes chances qu'on vous mette de côté. De la même manière, si vous n'étiez pas un enfant légitime, il était exclu d'avoir l'héritage. Donc en fait, il y a un petit peu le côté culturel, historique et juridique aussi de notre système actuel qui amenait le secret vers certaines choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, les secrets sont sur autre chose. Par exemple, on cache par exemple les suicides parce que c'est problématique aussi au niveau des assurances. On va cacher des secrets parce qu'il y a encore le candidaton sur certains sujets dans certaines familles. Donc en fait, ça se construit encore une fois très dans la famille déjà, mais aussi culturellement et sociétalement. Donc petit à petit, en avançant, on arrive à déconstruire ces choses-là. Et plus jeune on l'évoque, finalement, plus vite on arrive à ce que ça soit une normalité pour l'enfant, en tous les cas, cette histoire-là, et d'arriver à se construire avec, parce que même une cicatrice n'empêche pas de grandir, et ça sera toujours moins délétère que de la prendre comme ça dans un moment souvent très gorgé d'émotions et d'affects, où généralement on réagit plutôt mal.
Merci beaucoup, docteur Anne Sénéquier. C'était passionnant, un échange très intéressant. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Passez une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention à vous, mangez 5 fruits et légumes, faites du sport, pas d'abus, c'est très important, bien sûr. Allez, salut tout le monde.